Radio
01.net présente.
Inférieur à 3.
Avec
Fibre Tigre
et Michel Pimpon.
Et bonsoir à tous, c'est Alvin et vous êtes dans la troisième de Inférieur à 3. Déjà, on vous a laissé un petit mois, on se retrouve avec un peu de retard, mais on est heureux de vous retrouver pour ce mois de décembre avec mes deux amis Fibre Tigre et Michel Pimpon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Alvin.
Bonsoir, c'est Fibre Tigre.
Alors là, j'ai l'impression que c'est l'hiver qui commence à taper, là ça devient difficile de tenir.
Oui, c'est vrai.
Et puis maintenant, on est inférieur ou égal à 3.
Bah c'est ça, là on commence à passer un stade critique. Et j'ai envie qu'on le passe avec la première VHS.
La VHS.
Comme chaque mois, la VHS, on commence avec une première VHS envoyée par Fibre Tigre, ou plutôt déterrée par Fibre Tigre, Dog Eat Dog, un jeu de Disney.
Ouais, en fait, de Disney avant Disney, Buena Vista Software.
D'accord, le groupe.
Voilà, alors vous vous souvenez un petit peu du Vaporware, ce que c'est?
Oui,
ça c'est Duke Nukem Forever.
Voilà, exactement. Donc un jeu qui croit qu'on sort jamais, et puis finalement Duke Nukem est sorti. Hein. Donc Vaporware, c'est le jeu qui ne sort jamais. Et Duke Nukem a mis beaucoup de temps, a mis Forever pour sortir. Mais celui-là, c'est encore pire, parce qu'en fait, c'est un jeu qui devait sortir en 1992 et qui est soi-disant encore en développement.
D'accord.
Donc c'est quoi? C'est une sorte de fiction interactive dans laquelle on doit monter les grades d'une entreprise. Tout en complotant, en léchant les bottes, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa pour le coup. À l'époque, Buena Vista Software, ils ont filmé 200 heures de jeu parce que c'était la grande époque du CD.
Du film interactif.
Voilà, exactement. Ils ont investi 1 million de dollars et le jeu est encore en cours de développement. Il a été cédé, recédé. Il a été repris à un moment par Trilobite. Mmh. Et maintenant, il est dans un autre studio un petit peu obscur. Mais la page, on la mettra sur notre page web de développement.
C'est important.
La page explique que le jeu est encore en développement.
D'accord. Pour quelle année?
Je ne sais pas. Donc, espérons que ça sorte un jour. Donc, en fait, la page, elle a des images de 95, donc de 3 ans après le jeu, et des indications sur les mises à jour du jeu. Donc, peut-être quand il va sortir, ce sera le jeu génial.
Peut-être, ou peut-être pas.
Après, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais un jeu qui a un budget de développement d'un million de dollars depuis 1992, ça fait jamais que 21 ans, presque 22 ans. Donc en fait, ramener sur une année, c'est quand même pas si... C'est pas des budgets non plus gigantesques, quoi.
Il est développé en Roumanie, peut-être.
Oui, il est peut-être délocalisé, effectivement.
Mais le mystère, mais peut-être qu'il sortira. Mais en fait, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'entreprise. Notamment, il y a Internet qui est arrivé, donc peut-être que...
Ils ont peut-être dû retourner des scènes. Alors, est-ce que c'était pas The Office, le jeu avant l'heure?
Oui, certainement.
C'était
ça,
un peu l'idée, peut-être.
Voilà.
Bon, on espère que ça sortira un jour. Alors toi Michel Pimpon plutôt,
oui.
Tu n'as pas amené de VHS, tu nous as amené une surprise.
Voilà, c'est une VHS surprise, c'est une VHS dans un paquet cadeau. Mmh. Donc,
c'est l'esprit de Noël, je trouve ça
bien.
C'est
le côté, tout à fait, esprit de Noël. Donc, en fait, je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle l'Aleph.
Ça se voit?
Comment? Non, ça ne se voit pas, non, écoutez, non. Donc ça s'appelle l'Aleph et c'est un jeu qui n'a jamais vu le jour, qui est resté à l'état de vaporware pour le coup, qui a été imaginé par un Français qui s'appelle Pierre Ménard, qui est pour la petite histoire, qui était le bras droit de Paul Cuisset chez Delphine. Voilà, chez Delphine. D'ailleurs, on pense à Paul Cuisset, puisque récemment, on a appris que Vectorcel s'était cassé la figure.
Après Flashback Après, Returns.
Et l'énorme Amy.
Voilà. Voilà. Oh, mais vous pouvez rire, hein, messieurs.
On ne s'en réjouit pas, mais oui. C'est malheureusement mérité.
Voilà, bon, en tout cas, c'est toujours de la peine de voir Monsieur Cuisset sur le carreau. Je ne vois pas de jeu de mots avec ça, mais
c'est voilà. Difficile.
Et donc, pour en revenir à l'Aleph, le principe de l'idée de Pierre Ménard, en fait, qui a fait un long post-mortem qui est visible en ligne, c'est pareil, on mettra l'adresse sur le site. L'idée de Pierre Ménard avec son Aleph, c'était de créer un jeu d'aventure minimaliste. Et il y a des images qui traînent un peu partout. Et l'idée, c'était de proposer un mode d'emploi un manuel qui allait avec le jeu, qui décrivait à la fois les personnages, les mécaniques de jeu, les lieux, la carte du monde, l'univers un peu tel qu'il était envisagé dans ce jeu d'aventure. Mais petit à petit, Pierre Ménard explique dans son post-mortem qu'il a écrit pour ce mode d'emploi jusqu'à devenir à moitié fou. Et donc, en fait, il s'est retrouvé à la tête d'un mode d'emploi complètement disproportionné par rapport à son
c'est
jeu.
C'est combien de milliers de pages
C'est-à-dire, je ne sais pas en combien de pages ça se chiffrait, mais grosso modo, effectivement, pour le vendre, ce que disait Pierre Ménard, c'est qu'ils étaient en train de réfléchir à le distribuer en librairie et plus du tout dans les circuits habituels, parce que ça donne date de, si j'ai bonne mémoire, de fin 86, début 87. Oui. Ça devait sortir sur Amstrad 6128. Et donc, cette espèce d'hyper, enfin, cette hypertrophie comme ça du mode d'emploi, c'est aussi ça que dit Pierre Ménard. C'est ça qui a mené le projet dans une impasse. Et voilà, je trouvais ça beau de parler en cette fin d'année de 2013 d'un jeu, donc l'Aleph, qui est allé droit dans le mur, mais de la plus belle des façons, puisque c'est un jeu qui a été complètement écrasé par son mode d'emploi.
Ceci étant, c'était une époque, je pense à par exemple Flight Simulator 4 en 1991. Ils étaient vendus avec des boîtes qui pesaient très lourd parce qu'il y avait des manuels de 300 pages.
Oui.
Même un jeu comme Frontier Elite, qui était un jeu spatial, voilà, il y avait un manuel plus un recueil de nouvelles. Voilà, donc c'était...
Ça fait du boulot. Est-ce que c'était pas pour profiter de la TVA réduite en librairie éventuellement Ça peut être une astuce.
Non,
c'est bien antérieur à tout ça.
Ce sont des Américains et Anglais.
Eh bien, merci messieurs pour ces découvertes. On passe tout de suite au Game Shark.
Game Shark.
Le Game Shark, c'est la chronique de Fibre Tigre qui, cette fois-ci, a envie de nous parler du modding, ou plutôt de non. Il ne faut pas céder au modding. Mais pourquoi ? C'est un monde de possibilités qui s'ouvre à nous.
Bon, c'est principalement une chronique d'opinion, mais elle sera argumentée, donc ça
on
permet aussi de réfléchir sur le problème. Moi, Fibre Tigre, je suis contre le modding. Je suis même un hater du modding, et plus précisément, je suis un hater des modding lovers. Alors, le modding, c'est quoi ? Vous achetez un jeu PC, en général, et vous pouvez il y a un système d'édition de niveau, d'édition du
contenu,
jeu tout simplement,
ouais.
Voilà, de contenu, et une communauté amateur donc se met autour du jeu et fabrique des additions au jeu.
Fabriquer, c'est plutôt bidouiller d'ailleurs,
voilà,
en général.
Il bidouille, mais parfois il y a pas mal de contenu qui est développé, et ce qu'on appelle un mod, qui vient donc rajouter un élément de gameplay complémentaire ou supplémentaire au jeu existant. Et moi, je suis complètement contre cette philosophie. Donc déjà, la première objection que vous pouvez me faire, c'est Fibre Tigre, t'es relou parce que Dota, Portal, Counter-Strike, c'est des mods.
Et
c'est,
oui.
c'est des très grands jeux. Alors, ok. Donc, le mod, comme une feature totale reprise par des professionnels, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vous parle des 1 million ou des 2 millions ou des 6 millions de mods qui sont à côté et qui servent à rien.
Les petits trucs sur mode DB ou qui sortent tous les jours.
Bah, déjà, c'est un peu le truc honteux parce que le premier mod qui sort généralement, c'est les femmes à poil. Voilà. Mmh. Skyrim, les femmes à poil dans Skyrim.
Et pourquoi pas ?
Oui, alors.
Parce que le deuxième, après, c'est une feature, c'est un mode arachnophobe en général.
Oui, oui.
Et c'est une bonne chose, c'est désintéressé.
Non, alors, c'est des mods qui sont inutiles. Je veux dire, un mod qui rajoute 400 canards avec tous les cris de canards dans Skyrim, ok, c'est fun, tu vois un canard, ah ouais, quand même, pas
c'est diversion.
Mais tu t'es fait chier à télécharger le mod, à réfléchir, à l'installer, tout ça, tu le lances et t'as ton canard, quoi, voilà. Ça,
c'est, mais c'est bien les canards.
Non, mais alors, ok, passons pour les canards, mais il y a un mod qui rajoute une voiture dans Skyrim. Je veux dire, là, ok, tu le testes, tu rigoles 2 minutes, puis après, tu retournes jouer à Skyrim, tu vois.
Ça va, voilà, être difficile de l'utiliser vraiment dans le jeu, quoi.
Alors, il y a beaucoup de mods qui partent d'une bonne intention. Alors, je vais sortir le fameux mod dont tout le monde me casse les couilles avec. C'est le mod qui s'appelle Nerim dans Oblivion. Mm-hmm. Parce que, soi-disant, c'est un stand-alone parfait, avec des voix, tout ça, etc. C'est des Allemands encore qui nous ont fait ça. Mais c'est un mod qui est imparfait. C'est-à-dire, il y a des bugs, il est incomplet. Il a très longtemps été incomplet. Aujourd'hui, il est complètement has-been puisqu'il est basé sur Oblivion. Mais on n'a pas le droit de le critiquer parce que c'est un mod.
Parce que c'est gratuit aussi.
Et parce que c'est ça, oui, c'est gratuit, monsieur.
Bah, gratuit, entre gratuit et payer 2€ un jeu sur Steam, parce qu'aujourd'hui, les mods complets sortent à des époques où les jeux deviennent pas chers. Je vois pas l'intérêt d'être un ayatollah du modding, tu vois.
Mais pourquoi on va pas reprocher à quelque chose d'être gratuit ? C'est difficile de reprocher les choses.
Non, alors moi, ce que je reproche, c'est l'attitude qui consiste à dire « Ah, tu joues à Skyrim en vanilla, tu vois. Mmh. Ah, non, ah, moi, j'ai la plus grosse, je lance Skyrim, j'ai 70 mods, dont le mod qui met les belles armures pour Nana à gros seins, quoi. » Non, mais... alors, c'est une question qui est plus vaste que le modding. C'est une question d'apprécier le jeu. Parce que vous avez un jeu vidéo qui vous est livré. Alors, est-ce que le jeu vidéo, c'est une œuvre d'art, etc. Tout le monde se branle dessus. Mais si c'est une œuvre d'art, vous n'avez pas rajouté une moustache à la Joconde.
Je veux dire... Non, mais c'est vrai. Mauvais exemple, pour le coup.
Mais non.
Bah, précisément.
Si vous êtes ça donne Warhol, des choses. Mais
non, mais il n'y a pas 7 millions d'Andy Warhol, tu vois. Et je vais prendre l'exemple de Morrowind. Ben, je suis très Elder Scroll, mais c'est des jeux qui sont extrêmement, c'est des jeux qui sont extrêmement modés. Bon, ils ont fait un upgrade de fou dans Morrowind qui le rend très beau. Ok. Mais du coup, comme il est très beau, on voit qu'une chose, c'est son gameplay qui date de 2002, c'est-à-dire un cliff racer qui tombe dessus toutes les 3 minutes. Donc du coup, on change le gameplay. Et du coup, on a quoi ? On n'a pas du tout Morrowind. Donc tu joues pas à Morrowind en fait. C'est la métaphore du bateau des Argonautes. Je sais pas si vous avez tout. Bon, voilà,
quel est le problème ? C'est-à-dire que c'est une restauration amateur ? Il faudrait que ça soit le développeur lui-même qui doit garder son jeu ou...
Alors, Jean Nouvel, architecte, dit il faut que les bâtiments ne soient pas intemporels, ils soient fixés dans le temps. Dans les années 80, on fait un bâtiment des années 80. Les jeux vidéo, c'est pareil. Est-ce que vous tuneriez une Porsche ?
Ça peut se faire, on l'a déjà vu.
Non.
Pas la mienne.
Ok, d'accord, d'accord.
Il y a deux avocats du diable à cette table.
Non, mais quand on fait Half-Life qualité Black Mesa, c'est-à-dire qualité HD, trop belle, etc., on n'a plus Half-Life. Ce n'est pas Half-Life. Et d'ailleurs, les gens qui jouent à Black Mesa, il manque quelque chose, c'est pas bien. Voilà.
C'est pas fini, surtout.
Alors, moi, pour toutes ces raisons, moi j'estime que chaque jeu doit rester vanilla. Et je vais être hyper intégriste, c'est-à-dire je veux dire qu'il faut jouer sur les supports d'origine, c'est-à-dire aujourd'hui si tu veux jouer à Super Mario 1 sur NES, t'achètes une NES, ça coûte 30 euros boulevard Voltaire, tu vis le vrai truc, et je vais être encore plus nazi que les nazis, c'est-à-dire que j'estime qu'en plus il y a une période temporelle dans laquelle y jouer, c'est-à-dire que tu joues le jeu sur la machine qu'il faut au moment où il sort, et quand il est en fin de période, tu passes à autre chose.
Il faut laisser le temps faire et voilà, passer à autre chose.
Parce que après, tu peux, pour des raisons documentaires, rejouer. Mais par exemple, moi, j'ai terminé Earthbound sur émulateur parce que la cartouche n'est pas facile à trouver, etc. Je sais, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais je sais que je suis passé à côté de la véritable expérience du jeu. Et si vous aimez vraiment les jeux vidéo, moi, j'aime les jeux vidéo, ne mettez pas de mode. Jouer à des vrais jeux originaux sur les vraies consoles et si possible en temps.
Alors Michel Vimban, est-ce que vous êtes intégriste ou est-ce que au contraire vous saccagez les œuvres et vous marchez dessus ?
Alors déjà, j'aurais quelques petites remarques et suggestions à faire à notre camarade Fibre Tigre ici présent. D'une part, je voudrais juste revenir sur la Joconde et les moustaches, parce que de mémoire, si je dis pas de bêtises, il s'agit pas d'Andy Warhol, mais c'est Marcel Duchamp qui a mis les moustaches à la Joconde en sous-titrant « Elle a chaud au cul ».
C'est bien de le préciser.
Et je pense que pour l'esprit, big up à toi Marcel, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, on pense à toi. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose que j'avais envie de dire depuis le début de cette chronique, c'est, on parlait des modes, j'avais envie de dire un truc, c'était dessinons la mode. Donc voilà, ça y est, je le sors, c'est fini. On passe à autre chose.
C'est bon, on passe à une nouvelle chronique.
Mais j'ai pas terminé, parce que en fait, j'avais envie de le dire du début jusqu'à la fin, donc dessinons la mode, voilà, deux fois. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je suis pas d'accord, parce que en matière de mode, même si je vois un peu où vous voulez en venir, Fibre Tigre, je pense aussi qu'il y a énormément d'amour pour le jeu et de plaisir ajouté dans la communauté de mode qui peut exister. Il y a plein d'exemples. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un exemple tout récent. Apparemment, il y a la bêta qui vient d'être la bêta finale qui vient de sortir pour le mode multijoueur dans Just Cause 2. Sur absolument. PC, qui est apparemment complètement foufou dingo, et je pèse mes mots, ce mode là apparemment il est fou, c'est-à-dire qu'il arrive à proposer en multijoueur, en plus c'est massivement multijoueur, hein, c'est pas les...
Il y a 200 personnes.
200 c'est ça, ouais. C'est ça. Il y a 200 mecs qui peuvent jouer sur l'île de Panao en même temps, en faisant les dingos dans des jets ou en jouant avec leur grappin. ce n'est pas sexuel. Donc ça, c'est complètement une expérience.
Contre objection, moi je veux savoir. Alors après, j'ai parlé des modes comme Dota ou Portal qui ont réussi, qui ont une bonne destinée. Ce sont des exceptions.
Ouais.
Moi, je fustige les modes filles à poil, tu vois. Mais même.
Ben ça, c'est ça qui est surprenant.
Admettons, parce que parle-en à ce moment-là. Mais concernant Just Cause 2, on peut jouer à 200. Moi, je veux savoir, au final, combien de personnes vont y jouer ? Est-ce que ça va être 200 personnes ? Est-ce que ça va être 2000, 2 millions ou 20 millions ? Parce que si on est en dessous de 20 000 personnes qui jouent au final à ce mode, ça reste un truc complètement anecdotique.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à ce mode-là, parce qu'il est très attendu. Il va être disponible sur Steam. Et on en parle depuis un an et demi, de manière régulière, sur plein de
jeux.
Je suis un peu de mauvaise foi,
mais je regarde aussi les vidéos, je suis intéressé.
ce mode-là est complètement foufou. Et j'avais un autre exemple de mode. Oui, bien sûr. Et il y a le mode Ice, ce qu'ils ont proposé. Enfin, les mecs qui ont réussi à tuner année après année, shader après shader. Je connais pas bien les termes techniques, qui ont complètement repimpé, si vous me permettez cette expression.
Vous avez le droit.
Qui ont repimpé complètement GTA 4 pour en faire un truc complètement hallucinant, alors que le jeu est sorti en 2007, 2008, je sais plus.
Et pas tout à fait terminé, et pas tout à fait et en
oui,
en plus.
Oui, voilà, c'est ça, sans être optimisé. Les mecs ont réussi à proposer une expérience hallucinante à l'heure actuelle, qui propose un jeu, le terme photoréaliste est idiot, mais disons un jeu qui est alors, extrêmement beau.
Contre-objection, c'est le problème de Morrowind, c'est-à-dire tu prends un jeu des années de 2006.
Le gameplay,
tu le rends hyper beau. Bah aujourd'hui,
on va avoir du mal. La démonstration va avoir du mal à tenir. Vous n'allez pas me dire, vous Fibre Tigre, que le gameplay de GTA est un gameplay acculé,
déjà GTA 5 classe, et GTA 5 est quand même bien meilleur en termes de jouabilité que GTA 4. Tu vois.
C'est deux expériences qui sont un petit peu différentes. Dernier point concernant toujours GTA 4, le mode très, très impressionnant. Il y a eu deux modes très impressionnants qui effectivement font dire « Oh là là, oh la belle bleue !» et tu joues deux heures et après peut-être que tu désinstalles. C'est le fameux mode Iron Man. En fait, ton personnage devient Iron Man et donc tu peux l'éviter comme ça. Tu te balades dans toute la ville, tu peux envoyer des boules, des impulsions dans tous les sens et ça bastonne à mort. Et le fameux mode hallucinant, Retour vers le futur, où en gros, ta bagnole, c'est la DeLorean, et tout a été respecté à la lettre, l'intérieur de la bagnole, tu rentres la date, à 88 miles à l'heure, tu disparais et t'arrives à un autre coin de la carte, c'est hallucinant.
Alors moi je voudrais répondre à tout à fait autre chose, c'est une question qui se pose avec le modi, ça témoigne quand même d'une bonne volonté dans les communautés, et c'est quand même quelque chose, le jeu n'appartient-il pas aux joueurs, une fois qu'il est sorti, ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une énergie positive ? C'est quelque chose de positif ?
Je pense qu'il y a trois types de plaisir. Il y a le plaisir de créer, qui est réel parmi les joueurs, et c'est très bien parce que c'est bien de créer. Il y a le plaisir de faire partie d'une communauté. Moi, je suis un modeur, moi, j'utilise des modes, monsieur. Et le plaisir de jouer. Et le plaisir de jouer, il est hyper anecdotique. Et c'est pour ça qu'en tant que joueur, pour la majorité des gens, le modding, ça doit rester un hobby, et ça doit pas il faut arrêter d'être l'ayatollah du modding. Et vous allez sur n'importe quel forum, les mecs ils vous méprisent parce que vous n'utilisez pas de mode.
Alors, vous parlez d'ayatollah du modding, mais en même temps vous vous réclamez plus nazi que les nazis en matière de
technologie.
Parce que
je suis à la recherche du plaisir parfait de jeu.
D'accord, donc là vous devenez un espèce d'esthète dandy ludique absolu.
Écoutez, on ira peut-être demander son avis à Göring. Moi, je propose qu'on passe au courrier des haters.
Ah bah oui, passons au courrier des haters.
Courrier des haters.
Le courrier des haters.
Le courrier des haters, vous le savez, chaque mois, nous épluchons les forums, les endroits où les gens se plaignent. Et nous avons découvert un petit courrier, cette fois-ci adressé à Dan Hauser, le patron de Rockstar. Alors, c'est un courrier anonyme, encore une fois, et en tout cas, il est très 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 vénère.
Le mépris, Dan Hauser. C'est ça que je retiens, l'incroyable mépris dont vous faites preuve. Vous êtes à la tête de l'éditeur de jeux le plus cool depuis 15 ans, en tout cas c'est vous qui le dites, et vous vous payez le luxe de ne pas donner, ou presque, d'interview comme si vous étiez un Beatles à la retraite. Je n'aime pas les prophètes, Daniel. Je peux vous appeler Daniel ? Oh puis merde, je me passerai de votre permission, moi aussi je sais être mal poli. Je n'aime pas les prophètes, Daniel, je disais. Pas plus que les avis définitifs, à l'emporte-pièce, les vérités assénées depuis les tours d'ivoire new-yorkaises. Daniel, je voulais vous dire, la coupe est pleine, ras-le-bol de GTA. Votre dernier jeu d'auteur était un simulateur de ping-pong. Alors, un peu d'humilité. Laissez donc l'open world tranquille, il ne vous a rien fait.
C'est bon, simulateur de ping-pong.
Très très bon, table tennis, très 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 bon. Alors, Dana Hauser, comme d'habitude, a été assez, loquace, je pense, pour sa réponse, et en tout cas peut-être un petit peu hautain. Il nous a envoyé un télégramme.
Un télégramme qui dit « Je n'ai pas pu répondre aux interviews, stop. Occupé à fabriquer des jeux, stop. Si vous voulez des interviews, adressez-vous à David Cage, stop. L'histoire et la vérité sont écrits par les vainqueurs, stop. »
C'est incroyable hein, quand même, hein. Autant de morgue de la part de... Enfin, je suis assez d'accord avec ce courrier des haters, hein, personnellement. Mmh.
En même temps, quand on vend 25 millions d'un jeu, effectivement, on peut oublier son téléphone et ne pas trop s'en préoccuper.
Excusez-moi, mais c'est la... c'est un peu la politique aussi du patron de Gears of War, qui ne communique absolument pas. Et ce sont des mecs qui simplement font des jeux, point final.
Le patron de Gears of War
d'Epic Games, plutôt.
Ah oui, d'accord. Games.
Alors justement, là, cette fois, ça va être un nouveau mail envoyé à une nation entière, cette fois-ci. C'est vraiment de... Les haters ne savent plus qui détester.
Il y a de la surenchère hein, parmi les haters. Hein,
ouais, ouais, non, on sent que le level monte de semaine en semaine. Je ne sais pas où on sera à la fin de cette saison. En tout cas, c'est un courrier adressé au Canada, cette fois-ci.
Aïe, c'est bon, on n'en peut plus des Canadiens. Donc déjà, vous avez essayé de nous fourguer discretos un niveau dans Montréal, dans Deus Ex. Donc... Bon, c'était que à l'intérieur, donc ça aurait pu se passer à Shanghai ou à Melun, tu vois. Avec vos petites private jokes partout, mais là, dans AC Black Flag, justement, vous êtes pris en flag.
Oh.
AC 4, feature non plus l'Animu, mais Abstergo Entertainment, société de jeux vidéo basée à Montréal avec moins de millions de références. Je vais vous donner un tip, chers cousins d'Outre-Atlantique. On veut un jeu qui parle de nous, pas de vous. Ou à la rigueur, il peut parler d'autres choses, par exemple d'aventures exotiques. Mais une société de jeux vidéo basée à Montréal, non seulement c'est pas glamour, mais c'est déjà 90% des contenus des reportages de preview du jeu. Alors merci bien.
Alors, les Canadiens ont voulu répondre à ce petit troll hein, sur AC4 Black Flag, aka simulateur de playtester Ubisoft. Voici leur réponse.
Alors, je vais vous faire la réponse, mais sans l'accent. Hein.
C'était pourtant le sel de cette réponse.
Pas ce France, soir. Quand même.
Ouais, je vais le faire vraiment soft, parce que je veux être aussi compris du plus grand nombre.
Voilà. C'est important.
Alors, chers représentants du vieux continent, merci pour votre lettre bien sympathique. Malheureusement, nous craignons qu'il y ait un malentendu. Est-ce parce qu'il y a 400 ans, un de vos ressortissants est venu poser ses bagages dans notre belle province que vous sentez un droit de regard sur notre destinée et notre industrie ? Ce serait bien fâcheux, avouez. Alors certes, les Guillemot Brothers, les tycoons du ludiciel Made in Morlaix ont posé pied chez nous pour évangéliser le continent américain. Mais c'est une réussite 100% Québec libre. Essayez donc déjà de développer un triple A, puis nous en reparlerons autour d'une bonne poutine. Bien à vous, le Québec.
Voilà, au moins ils savent recevoir. Ils font à manger quand ils vous attendent.
Oui, voilà. Comet me, bro, je crois. Je dirais plutôt un gros comet me.
Bon, allez, écoutez, d'ici à ce qu'on traverse tous l'Atlantique pour aller s'installer au Québec et qu'on supporte moins 20 degrés, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Passons tout de suite au Game Génie de Michel Pimpan. Le Game Génie, c'est la chronique de Michel Pimpan, et en cette fin d'année, vous n'y avez pas échappé. Aux une de tous vos magazines, aux une de tous vos sites internet, la Xbox One, la PlayStation 4 sont sorties, et Michel Pimpan aimerait revenir sur ce non-événement finalement.
Oui, il y a un peu de ça. Il y a un côté non-événement et en même temps, il ne faut pas avoir peur de dire qu'en ce début du XXIe siècle, ça peut faire partie des informations. Malheureusement, la sortie d'une nouvelle console, c'est presque une information. Quoi. Même si ça nous choquait encore il y a 10 ans, mais en tout cas, c'est...
Tout de même, 1 million de personnes par console au premier jour, c'est un phénomène, on va dire.
C'est un phénomène, voilà. Maintenant, mieux vaut ne pas le qualifier. Laissons juste le mot phénomène, ça suffira. Donc moi, ce que je vous propose, chers amis, ce soir, c'est une brève histoire édifiante et chaloupée des lancements de consoles. Voilà.
Tout un programme.
Parce que l'exemple récent du lancement de la PS4 et les images qui, dans une certaine mesure, étaient attendues du Black Friday américain, toutes ces images-là, elles ont ravivé des souvenirs douloureux de lancements de consoles qui existent depuis 10, 15, 20 ans. Et plus on creuse le sujet des lancements de consoles, moins on parle de jeux vidéo, c'est ça qui est assez amusant. Et on parle de plus en plus de consommation et de questions de société. Alors je vais vous épargner quand même des grands poncifs de l'extrême gauche ou de la société de consommation. Mais je commencerai par un bref rappel historique, potentiellement romancé, des lancements de consoles. Alors, déjà d'une part... Je vous propose de parler de la NES, déjà. La NES, nous dit notre ami Wikipédia, devait être commercialisée en septembre 87, en même temps que la Master System, mais la livraison par bateau, figurez-vous, pour le territoire français, la livraison par bateau venant du Japon prit du retard. Et donc, ça arrive quasiment un an après. Et la France reçoit 40 000 consoles pour son lancement. Et elle n'en écoulera que 10 000 à la fin de l'année 87. Donc, traduction, ça va. Tranquille.
C'est un épiphénomène, là.
C'est du rien du tout.
Bah, en 1987 pur, dans la France, personne parlait de la NES.
Bah, 10 000 personnes parlaient de la NES, quoi. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Donc, on était quand même
On l'avait acheté par erreur à Carrefour sans savoir s'en servir.
Ah, ou, Carrefour. Non, mais malheureux, c'était Mammouth.
Auchan ou Leclerc. Hein,
non, mais le truc, c'est que ce n'était pas le suicide collectif des acheteurs PlayStation aujourd'hui pas qui font tout pour avoir leur console, quoi.
Je vais venir. Maintenant, passons rapidement sur la Super Nintendo. On parle toujours chez Wikipédia, on souligne le succès immédiat. On parle de la livraison initiale de 300 000 unités qui ont été vendues en quelques heures, cette fois-ci pour le territoire japonais. Et donc là, pour le coup, il y a eu un peu de
ça a fait du bruit jusque dans les hautes sphères de l'État.
Un peu d'échauffourée, parce qu'effectivement, il y a eu, Wikipédia nous dit, le dérangement occasionné conduit le gouvernement japonais à demander aux fabricants de consoles de prévoir à l'avenir de sortir leurs consoles en fin de semaine. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la sortie occasionne également un regain d'intérêt auprès des Yakuza. je rigole pas, hein, c'est dans Wikipédia. Amenant à la décision de convoyer les appareils de nuit pour éviter les vols.
Donc finalement, les camionnettes Micromania avec les Call of Duty qui sont attaquées, c'est pas neuf, finalement.
Ben, c'est pas neuf, mais en tout cas, merci la pègre, on peut dire. Merci la pègre, enfin, arigato, hein, la pègre, pour avoir gardé ma Super NES bien au chaud. Une petite exception parmi toutes ces consoles 16 bits qui s'arrachent comme des petits pains, c'est une console de gentleman, la Mega Drive, car le lancement de la Mega Drive a été exemplaire. Tout va bien.
Les adorateurs de la Mega Drive font une sorte de secte et ils se caressent entre eux.
Mais ils ont bien raison.
Il y a quand même ce côté, tout file droit, tout va bien.
Mais tout va bien et ça s'est très bien passé. Donc merci pour nous. Vraiment, la Mega Drive, vraiment le lancement de gentleman pour une console de gentleman. Je passe rapidement sur la Saturn, puisque vous connaissez certainement cette anecdote.
C'est assez superbe tout de même. C'est un beau coup.
Qui est très classe, qui est à la fois un wet dream, enfin un rêve humide pour fanboy. Si ma mère entendait comme la manière dont je parle, vraiment, je crois qu'elle elle me taperait.
On l'embrasse.
N'embrassez pas ma mère, s'il vous plaît. Alors voilà, le 11 mai 1995, c'est le premier E3 qui a lieu. Je ne sais pas si c'était pas encore. Je me demande si c'est pas encore à Los Angeles ou si c'était à Las Vegas. Bref, quoi qu'il en soit, je crois que c'est le boss de Sega, Sega Amérique, qui annonce que le Saturn Day, qui devait être donc le jour où le fameux samedi, je ne sais plus, en septembre, le jour où la Saturn devait sortir, c'était une ruse et que en fait. La console était disponible tout de suite chez quatre marchands bien spécifiques immédiatement. Donc en gros, il dit ah, et tu sais quoi, là je suis en train de faire ma conf, bim, ça y est, c'est disponible dans ta.
Alors qu'il n'y avait même pas Twitter, même pas Internet, c'était quand même très en avance, on va dire.
Très audacieux, très en avance. Ça a marqué les esprits, mais il manquait l'infrastructure et les distributeurs. Et effectivement, comme le notent encore une fois mes amis de Wikipédia, c'est que ça a capoté, tout ça, enfin, cette belle idée a capoté parce qu'il il s'était pas mis tous les revendeurs dans la poche. Et d'un point de vue de la distribution, ça.
Il y en a qui ont été vexés de ne pas l'avoir. Oui, et oui, puis la PlayStation était quand même annonçait un prix moindre sur le salon ce
ouais,
jour-là.
Voilà, elle était un peu en embuscade, quoi. Donc voilà pour la Saturn. Je passe rapidement sur la Nintendo 64 où effectivement on parle de scènes de liesse, enfin pas de scènes de liesse, scènes d'émeute où des gens s'arrachent un peu la console et des VIP qui essayent d'obtenir la console avant tout le monde, ce qui continue.
Ce qui finalement est devenu très banal aujourd'hui finalement.
Voilà, tout à fait. Donc Spielberg, qui était encore en chien, apparemment, il est en chien sur toutes les consoles, lui. Spielberg, qui déjà.
Il avait hâte de faire Boomblox, peut-être.
Qui est apparemment un bon jeu. Hein,
mais je paraît-il,
ouais,
paraît-il.
Tout à fait, c'est un très bon jeu. Il a fait The Dig entre temps. Ah, ouais. Et aussi un truc en Claymation, mais je me souviens plus ce que c'est.
Ah, je sais plus.
Point and click en claymation.
Ah, c'est bien ça.
Voilà, mais bon, faudra.
Boomblocks restera dans notre cœur et dans nos Wii.
Ah ouais, très bien Boomblocks. Et j'en arrive rapidement aux consoles, enfin quasiment aux années 2000. La PS2, donc tout le monde se souvient du lancement sur le Virgin.
Du Virgin
avec la pyramide. Des Champs-Élysées. C'est en gros une scène d'émeute où en gros les gens piétinent d'autres personnes pour obtenir une console qui vont payer. Hein. Il ne s'agit pas de voler, mais des gens se piétinent les uns les autres pour pouvoir payer quelque chose.
Et jouer à Fantavision quand même.
Oui, voilà.
Il faut quand même le souligner.
Oui, mais pour moi, Fantavision n'est pas quelque chose à jeter entièrement. En tout cas, vous pouvez jeter Vision, parce que Fanta, au moins, c'est déjà,
c'est bon.
Y a quelque chose.
C'est agréable.
Quoi. Et donc, il y a la PS2, ça a clairement marqué les esprits, les journalistes et les joueurs. Et c'est devenu un peu
la référence, entre guillemets, quand on pense à un lancement de console
raté.
Enfin, ouais. En tout cas, qui suscite un engouement terrible.
C'est
pense
la même chose. C'est, ouais, voilà, c'est la même chose que le concert des Rolling Stones avec le service d'ordre fait par les Hells Angels dans les années 70.
Oui, voilà, ouais.
Et c'est devenu une espèce de souvenir noir qui a vraiment hanté.
Un événement festif qui l'est finalement pas tellement.
Pas du tout. Voilà. Pour la PS3, apparemment, c'est pareil. On a, enfin, dans une moindre mesure, on parle de, aux États-Unis. Bah, alors les États-Unis aussi font un peu n'importe quoi. Qu'il y a eu des gens qui ont été poignardés, qui ont été volés, qu'il y a eu des gens qui ont été des drive-by. Bien sûr, il y a eu des drive-by. Il y a des drive-by n'importe comment, pour n'importe quoi. Et apparemment, oui, bon, pour la PS4, ça a été un petit peu rock'n'roll. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que ça remonte au cet engouement plus ou moins
exprimé ou en tout cas
cet engouement là il remonte à il y a une vingtaine d'années quoi, c'est là depuis un certain temps. Je voulais aussi parler rapidement du Black Friday là, qui s'est déroulé donc fin ou octobre, je crois.
Il faut expliquer de quoi il s'agit. C'est donc pour les achats, les cadeaux de Thanksgiving.
Voilà, c'est ça. C'est pour à l'occasion de Thanksgiving, il y a le Black Friday américain. Donc c'est un jour où il y a des super réductions dans les plus grandes enseignes, mais pour
c'est
n'importe
le
quoi.
Le jour où ils font le chiffre d'affaires de l'année, hein,
ouais,
chose près.
Voilà. Mais apparemment, il y avait des scènes d'hystérie totale et même il y a eu des morts, je crois, encore cette année.
Pour des mouvements de foule.
Ouais, à cause de ça, il y a des gens qui se sont frappés autour d'une télé pour avoir une télé. On parle même plus de console en fait à ce niveau-là.
On parle d'équipement, de bien.
Voilà, les gens veulent acheter à tout prix et ont peur de manquer quoi. Donc ça, c'est quand même super inquiétant quoi. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'est que ces scènes d'hystérie collective liées au divertissement, en fait, elles sont pas nouvelles et c'est juste que ce sont des formes. Les formes ont évolué, mais ces formes d'hystérie, j'ai l'impression qu'elles ont toujours existé. Il y a cet exemple qui est donné par Stephen King en fait dans La Ligne Verte, dans sa préface, qui rappelle que Dickens, donc le fameux romancier, a sorti pas mal de ses romans sous forme de feuilletons, donc ils étaient publiés sous forme de feuilletons, et la pression était telle en fait sur certains de ces feuilletons quand ils sortaient. Qu'il y a eu des scènes de bousculade et d'émeutes avec des blessés et je crois même des morts dans un port parce que il y avait un bateau qui apportait la livraison avec les nouveaux journaux ou
avec la suite quoi,
avec la suite, les gens voulaient vraiment savoir ce qui se passait, ouais. Mouvement de foule, débordement et
drame.
Et drame. Oui, tristesse.
Dans cette même préface, je crois qu'il disait qu'il avait reçu des menaces. Genre des ours en peluche écartelés pour lui dire fini la tour sombre, mec, tu vois.
C'est vrai?
Ouais, je crois que c'est si je me souviens bien.
Et moi, la question, en fait, pour terminer, la question moi, à laquelle je reviens toujours quand on parle de ces lancements de consoles, et notamment la PS4 et la Xbox One, c'est pourquoi diable posséder une console à son lancement?
Oui, c'est quand même. Pourquoi?
Moi, je veux bien y répondre.
Que je développe juste un tout petit peu le truc. Une console à son lancement, ça a pas ou peu de jeux. Et en fait, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de system seller en fait au moment de la sortie d'une console. Alors l'exemple, enfin le contre-exemple parfait, c'est effectivement Mario 64 ou Super Mario Land pour la Super Nintendo. C'est-à-dire que effectivement ta console elle vient en bundle avec un jeu
qui défonce tout,
qui est vraiment parfait, qui a été parfaitement poli et pensé pour ta console. Donc en gros, tu vas t'éclater pendant au moins 2-3 mois ou même plus avant de retourner le jeu dans tous les sens. Mais maintenant, les consoles modernes, je dirais les consoles CD-ROM, console avec un support CD-ROM ou un support optique si vous voulez, il y a plus de système seller au départ, quoi. C'est bizarre. Et
on achète un objet technologique, ouais, plutôt qu'un support de divertissement. C'est pas pour un jeu qu'on l'achète, c'est pour la console,
voilà,
en elle-même.
Voilà, c'est ça. C'est ma conclusion. C'est que en fait, on n'est plus en train d'acheter un objet. On est en train d'acheter un fantasme. On est en train d'acheter un bout d'imaginaire. En fait, les premiers acheteurs cherchent à posséder un fragment du futur. Tu vois, c'est une espèce de d'aberration. C'est complètement païen, quoi, comme truc, quoi.
Je rapprocherais ça des téléphones. Effectivement, c'est comme, est-ce que c'est pas du même niveau que les ruées vers des iPhones qui finalement promettent trois features révolutionnaires. Effectivement, là aussi, c'est une idée. On rêve plutôt d'une idée. On achète une idée plutôt qu'une fonction ou qu'un usage.
Il y a le concept de marque de standing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui est... Les voitures, ça le fait pas rêver. Les voyages, ça le fait chier. Le seul truc d'accès qui est un peu dans son univers, mais qui dit « je suis upper class », c'est d'avoir la dernière console, le dernier écran.
Avant ses potes, de préférence.
Oui, ça c'est un concept. Mais pour revenir, l'exemple de la PS2 est très intéressant parce que ça n'a pas trop changé depuis en termes d'engouement. La PS2 avait FantaVision et pas de Killer App
les trois jeux de lancement étaient assez tristes.
La PS2, tout comme la PS3, c'était des lecteurs vidéo. Vous pouviez voir votre petit DVD sur votre lecteur. Et vous n'avez pas acheté un lecteur DVD qui prenait plus de place que la PlayStation pour voir vos DVD. Donc, c'était très pratique. Ensuite, il faut voir une chose, c'est que... Alors, ce qui est très amusant en ce moment, c'est que les PS3, PS contre Xbox, ils se battent sur le line-up, c'est-à-dire les jeux à venir. Et ils disent, oui, il y a moins de jeux sur PS. Mais en fait, quand vous achetez une console, vous n'avez pas besoin de 10 000 jeux, vous n'avez même pas besoin de deux jeux, vous n'avez besoin que d'un seul jeu. Parce que ce jeu-là, il va vous occuper 3 semaines, 1 mois, si vous êtes normal, si vous n'êtes pas chômeur. Voilà. Et donc, il suffit d'un jeu, même médiocre, mais vous êtes dans une autre dimension. Et c'est vrai que la résolution des nouvelles consoles est quand même très différente. C'est difficile de revenir en arrière si on n'a pas un jeu d'excellente qualité en arrière. Et ça se justifie. Voilà, je trouve que c'est on va vers une justification totale de l'émeute. Après, je crois qu'on s'est croisé à la soirée
à Paris Games Week,
voilà, et à Paris Games Week, on s'est vu ensemble et je suis sorti à 22h et à 22h les gens faisaient déjà la queue pour le lendemain.
Sérieusement.
Voilà.
Alors c'était les gens de Call of Duty.
Là, de Call of Duty qui faisaient. Oui, mais c'était pour recevoir un Call of Duty. C'est pour dire les engouements sont extrêmes.
Alors,
pour les jeux.
Est-ce que tu peux me permettre de placer une anecdote? Oui. Alors, c'était de la soirée de Paris Games Week, comme tu le dis. Effectivement, je n'étais pas dans un état de sobriété. L'alcool est à boire avec modération, bien sûr. J'ai essayé justement de rencontrer ces jeunes qui attendaient Call of Duty. Et effectivement, alors je n'ai pas croisé Moïse malheureusement, j'ai croisé, je crois, Abdelkader, 17 ans, qui me disait qu'il venait de Vitry et qu'il était venu parce qu'on lui avait dit que ça coûterait le jeu coûtait 200 euros et qu'il allait pouvoir leur vendre 200 euros. Et c'est malheureusement un autre engouement et c'était peut-être pas... C'était assez triste malheureusement, c'était pas un rassemblement de fans joyeux et c'est là qu'on voit que les engouements sont peut-être limités. Bah, il y a l'effet sur les PS4 aussi, on le voit sur les PS4, les gens qui sont allés acheter les PS4, sachant qu'ils pourraient en tirer un bénéfice sur eBay. Est-ce qu'on ne sort pas, plutôt le bon coin d'ailleurs, parce que nous sommes en France, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre quelque chose pour un engouement qui n'en est pas un?
Non, c'est aussi le concept du Black Friday, où c'est moins cher.
Oui.
Donc les soldes, c'est toujours un moment privilégié. Maintenant, j'étais à 5, vous l'avez acheté Day One, je sais pas. Enfin, moi déjà, j'achète mes jeux, ce qui est assez rare dans la sphère des gens qui parlent de jeux vidéo, mais j'ai acheté mon jeu. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté le jeu GTA 5 au Micromania à Léal, les jeux étaient ouverts. Normalement, il y a un seau en plastique de Microsoft. Les gens avaient ouvert les jeux pour pas qu'ils se fassent voler et les jeux étaient sous le comptoir. Donc, tu as acheté la boîte ouverte et je leur ai dit, mais attendez, la boîte ouverte, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, t'inquiète, il y a un problème, tu le rapportes. Mais j'étais pas super à l'aise. Voilà.
Très bien. Écoutez, je pense qu'il va être temps de passer à notre dernière question de l'émission. La dernière question de l'année d'ailleurs, le Final Lap. Final Lap. Et c'est parti pour le Final Lap, la question de la fin. Ma petite question que je pose à nos deux chroniqueurs. Alors bien sûr, c'est une question de saison cette fois-ci. Donc nous sommes bientôt à Noël. Normalement, les enfants ne nous écoutent pas. Et en tout cas, vous en avez peut-être et vous avez peut-être des choses à leur offrir, ou des cousins, ou que sais-je. Nous allons nous interroger ce soir sur, admettons que le Père Noël existe. D'ailleurs, il existe, hein, c'est un fait. Et que vous, Fibre Tigre, vous, Michel Pimpan, soyez le Père Noël. Quel jeu offrirez-vous à tous les enfants du monde sur Terre pour leur faire aimer le jeu vidéo? Vous pouvez leur offrir un seul. Ils peuvent y jouer par je ne sais quel miracle technologique. Et ce jeu-là devrait, normalement, faire passer des choses et leur donner envie de reprendre une manette dans leur vie.
Alors, s'ils ont été sages, Mother 3.
Mother 3.
Toute la vie.
Des magots.
Pas du tout des magots.
Avec un patch toute anglais quand même.
Avec un patch anglais fait
français,
par,
c'est possible.
Par Tometo, donc, qui est très très fort. Mother 3, je suis en train d'y rejouer d'ailleurs à nouveau, parce que c'est jamais que la troisième ou quatrième fois. On est frappé par la qualité d'écriture, la qualité de création d'un univers complet et un système de jeu, bon, hérité des deux premiers Earthbound, mais qui est vraiment magnifique. Donc on tient une pépite dans ses mains, et donc ça, je la souhaite à tous les enfants sages du monde.
Et c'est un propos qui parle aux enfants ou qui en tout cas qui peut les atteindre des...
les grands enfants qui ne sont pas encore couchés à 23h à l'heure de diffusion l'émission,
ouais,
tu vois, voilà, donc les grands enfants ou l'enfant qui vit en vous, voilà. Pour les enfants passage,
ouais, parce que y en a
je propose alors au choix Assassin's Creed Révélation, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood.
Brotherhood, il est magnifique.
Assassin's Creed 4, Black Flag.
Tout ça.
Non, ils sont tous.
En bundle. Il
y en a qui
un pack intégral.
Avec Uplay obligatoire.
Évidemment.
Et
puis l'obligation de faire
avec
les DLC.
Avec une
aussi.
Heure de gameplay exclusive. Parce qu'on compte en heure de gameplay exclusive. Tu sais, ça veut pas dire il y a une mission, ça veut juste dire une heure de gameplay, quoi. Ok, c'est juste dire qu'ils ont.
Vous pouvez jouer une heure de plus.
Déjà le multi d'Assassin's Creed est vraiment original.
Oui, oui, ah ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est une erreur parce qu'ils le poussent pas assez, quoi.
Bon, je peux dire mes jeux ou pas?
Oui, tout de même. Tout de même.
Alors, il a dit trois jeux, hein. Moi, je vais les dire aussi. Alors, un jeu qui plaît à tous les enfants de la Terre qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo et qui peuvent jouer avec leur papa, tout ça, etc. Moi, je dirais Buzz sur PS2.
Absolument.
Très fun, on peut y jouer à 8, on peut y jouer avec la famille. Même
on peut
si...
laisser gagner ses enfants pour leur donner l'impression.
Voilà, il y a une carte mémoire qui permet, il y a plein de questions, c'est rigolo. C'est... Donc moi je suis passé du monde PC à la console pour Buzz.
D'accord, à ce point-là.
Ah oui, ça m'a.
Et pourtant c'est qu'un Quiz TV amélioré, c'est You Don't Know Jack en moins tatillon.
Ouais, mais c'est un jeu de société, Trial Pursuit, devant la télé. C'est le jeu
tous,
vidéo.
Tous ensemble, les uns à côté des autres.
C'est la vraie transition. Cool, enfin pour moi, c'est, je trouve ça c'est un jeu très intéressant. La licence est un petit peu moribonde en ce moment, j'aimerais que ça revienne. Sinon, si c'est vraiment pour montrer la beauté d'un jeu vidéo aux gens, parce que les jeunes, en fait, on n'a pas besoin de les initier, ils jouent aux jeux vidéo, c'est Super Mario 1.
Carrément, tout simplement.
C'est un excellent
jeu.
Et
ça, c'est pas démago, ça, monsieur?
Légèrement.
Non, mais c'est un grand classique. Et pour punir les gens, moi, j'ai une punition à leur faire.
Ça sent le mode, ça.
C'est... Non, non. C'est au choix Final Fantasy VII ou Beyond Good and Evil.
Oui,
parce que la moitié du monde se branle dessus en disant c'est le meilleur jeu du monde. Et je dis, ah oui, c'est le meilleur jeu du monde. Eh bien, jouez-y, monsieur. Voilà.
Je suis bien d'accord.
Beyond Good and Evil, il y a quand même le symptôme de tout le monde dit que c'est un jeu magnifique et personne ne sait me dire ce qui se passe après le premier niveau.
Ouais,
c'est impossible.
Assassin's Creed Beyond Good and Evil.
le crossover.
Assassin's Creed, au moins, les gens, ils le terminent, tu vois.
Le 1, oui.
Écoutez, très bien, on va rester sur ces recommandations. Donc, en tout cas, Mother 3 pour des enfants sages et Buzz pour passer un bon moment avec ses enfants. Ça devrait en tout cas leur donner envie de retoucher une console.
Et toi, Alvin, alors?
Alors moi, comme à chaque fois que vous posez une question,
c'est mieux. Just Dance.
Non, même si, parce que Just Dance, c'est le jeu qu'on pourrait s'offrir pour essayer de choper sa première copine ou son premier copain. Et en fait, ça ne marche pas. Je pense que vous pouvez lire quelque part pourquoi, d'ailleurs. C'est un fait d'armes. Il se trouve que pour moi, ça serait quand même certainement Portal. Parce que je pense qu'avec Portal, on comprend comme un jeu et comme un... un ordinateur, ça donne une vie à un ordinateur, ça donne une personnalité à un ordinateur, et ça nous fait comprendre que finalement tous ces jeux sont des produits d'ordinateur et que finalement on pourra les aimer. Et en tout cas, il se passe suffisamment de choses en nous dans Portal, et Portal est suffisamment bien fait pour qu'on joue sans se rendre compte qu'on joue. C'est quelque chose qu'on maîtrise, on pense le maîtriser, et finalement le jeu a toujours une longueur d'avance. Mais à chaque fois, quand on est trop fier de trouver une solution dans une énigme, on se dit j'ai peut-être trouvé une faille, et en fait non, pas du tout, c'est les développeurs qui ont pensé. Mais tout est fait. Donc Portal 1 et Portal 2, je pense que les enfants jouent à ça et ils aimeront jouer toute leur vie.
Ils font des cauchemars toute la nuit.
Et sinon, après, voilà. Et sinon, éventuellement, peut-être Fable s'ils ont envie de tabasser un petit peu plus. Mais objectivement, dans Portal, ça fait mieux quand même.
Et pour les enfants passage, alors ?
Alors, pour les enfants passage, alors, j'aurais bien aimé Assassin's Creed, mais il va falloir faire original. Et je pense que l'autre licence qui me fait vraiment le plus chier après Assassin's Creed, c'est finalement même pas Call of Duty, c'est finalement Counter-Strike, en fait, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que Counter-Strike, en fait. C'est des gens qui font depuis 12 ans la même chose dans le même jeu sur DOS 2, quoi.
Pas des magots, là. Bah, mais... c'est comme l'un jeu d'échecs.
Oui, non, légèrement. Mais tout de même, enfin... Counter-Strike, je sais pas, c'est, alors, après, peut-être que c'est comme les échecs. Alors, est-ce qu'on a envie, si on veut leur faire jouer à un jeu répétitif, on les fait jouer aux échecs, ils vont devenir très intelligents, ça serait super bien. Ils leur offrez pas un jeu vidéo, quoi. Je pense.
C'est une conclusion totalement zen, quoi. C'est-à-dire, le meilleur du jeu vidéo ou le pire du jeu vidéo, ce serait une absence de jeu vidéo.
On s'en reparle l'année prochaine, messieurs.
Merci, à l'année prochaine.
Bah oui, c'est la dernière. Retrouvez-nous en téléchargement sur radio01.net. Merci à Synops Live de nous avoir diffusé ce soir.
Merci, et Synops Live.
Un dernier mot pour finir l'année, mes amis.
J'aime beaucoup Assassin's Creed.
Je suis un mensonge.
Passez des très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une très bonne année 2014. À l'année prochaine. Salut.
Bye.